Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air Dubois et c'est l'heure de l'interview avec Manon Quedeau. Bonjour.
Bonjour Yves, merci pour l'invitation.
Manon, tu es ici pour nous parler de stage de Kung Fu que tu as commencé déjà à proposer ce week-end du 28 février et 1er mars. Ce sont des stages qui permettent l'ancrage, le renforcement, la fluidité. Vous nous décrirez un peu en détail ces propositions. Et puis, vous allez nous parler aussi de cet art martial avec toutes ses déclinaisons possibles. Mais avant tout, son origine. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu de cette histoire du Kung-Fu ?
Oui, alors il y a plusieurs styles de Kung-Fu. Et moi, je propose en particulier... du Kung Fu Shaolin, du Mei Hua Chuan et un peu de Tai Chi Chuan. Et l'histoire du Kung Fu Shaolin, elle remonte quand même à peu près 1500 ans. Et c'est en fait un célèbre moine qui s'appelle Bodhidharma qui est arrivé en Chine pour transmettre le bouddhisme zen. Et avant d'être accepté par le temple Shaolin de la province du Henan, en fait, qui est du coup sur une des cinq montagnes sacrées de Chine, la montagne Songshan, il s'est assis dans une grotte pour méditer pendant 9 ans parce que les moines ne l'acceptaient pas. Et au fur et à mesure, quand ils ont vu sa dédication, sa persévérance et son... une habilité à méditer aussi longtemps, ils ont finalement ouvert les portes du temple. Et en fait, Bodhidharma est arrivé avec des techniques pour améliorer la santé des moines à l'époque, parce qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient une pratique de méditation, mais qui n'était pas soutenue suffisamment par des pratiques physiques, qui faisaient que c'était moins évident. Donc il est arrivé avec ses techniques pour soutenir la santé et en même temps renforcer le corps. Et il avait aussi à cœur de leur partager des moyens en fait, pour se défendre contre les brigands qui pullulaient aussi dans la région. Donc ça, c'est un peu l'histoire...
globale.
Globale, voilà. Et au fur et à mesure, le style a évolué et est arrivé jusqu'à aujourd'hui.
Donc un art martial très ancien avec, dans la durée, des déclinaisons de toutes sortes. D'ailleurs, le pays d'origine étant la Chine, bien que la Chine soit une multitude de contrées, de régions, il y en a une particulièrement sur laquelle s'est construit cet art.
Pour Shaolin, c'est assez clair, ça s'est vraiment construit autour justement de ce temple-là, qui est un peu qui est la maison mère du Kung Fu Shaolin, et qui s'est exporté après dans différentes écoles, un peu dans toute la Chine, mais le berceau, il est vraiment dans la province du Henan, à Songshan. Et il y a une chanson d'ailleurs là-dessus. Et en fait, juste à côté, il faut prendre le bus, mais il y a une navette qui relie l'entrée du temple. Après, il faut marcher pour aller jusqu'au temple, mais l'entrée des terres du temple jusqu'à la ville la plus proche qui s'appelle Dengfeng. Et tout autour de Dengfeng, dans Dengfeng même, il y a je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une pléthorée. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles de Kung Fu Shaolin là-bas. C'est vraiment le centre...
Vous vous êtes rendu là-bas ?
Oui, en fait, moi, j'ai passé plusieurs années à étudier dans une de ces écoles, une des écoles qui était sur les terres du temple. Après, c'est une école qui a déménagé, donc j'ai passé un peu plus de 6 mois sur les terres du temple, et après, j'ai bougé avec l'école. Voilà.
Le Kung-Fu donc, a été initialement créé par des paysans qui souhaitaient se défendre face à des brigands. Ça, c'était il y a... de plusieurs siècles. Est-ce que depuis aujourd'hui même, il y a toujours cet engouement du Kung-Fu pour la population, mais aussi dans cet esprit de défense, ou alors il y a une autre, plutôt une philosophie ?
Eh ben, il y a un peu des deux, en fait. En tout cas, les gens sont toujours très intéressés par le kung-fu. Et moi, quand j'étais là-bas en tant qu'apprenante, pratiquante, et que je parlais avec des Chinois qui me disaient « Bon, ben, qu'est-ce que tu fais en Chine ?» Et je leur disais « Ben, j'apprends le kung-fu. » Toujours, ça faisait un effet de « waouh » et de avec des petites étoiles dans les yeux, en fait. C'est très, très présent là-bas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une culture du kung-fu qui est différente en fonction du nord et du sud de la Chine. Au nord, on dit que c'est plutôt l'usage des pieds. Au sud, on dit que c'est plutôt l'usage des poings. Mais que ce soit sud ou nord, de toute façon, il y a quand même une recherche un peu spirituelle derrière. C'est de présence à ce qu'on fait aussi, beaucoup.
Comme vous aviez dit, waouh, est-ce que pour vous, vous retrouvez en Chine, ça vous a aussi marqué ce pays avec ses contradictions, on peut dire?
Oui. Moi, j'ai appris du coup le mandarin quand j'ai fait mes études. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour balader là-bas et un peu échanger aussi avec les gens. Le pays m'a marqué. Et effectivement, pour moi, le mot qui m'est venu, c'était vraiment cette contradiction entre les traditions et le neuf. C'est très, très marqué.
Elles s'imbriquent bien entre elles ?
Eh bien, plutôt. J'ai l'impression que pour les gens là-bas, c'est vraiment les deux se côtoient et c'est naturel, quoi, quelque part.
Comment vous êtes-vous retrouvé face au kung-fu ? Qu'est-ce qui vous a attiré sur cet art ?
Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des arts martiaux plutôt japonais, judo, aikido. Après, j'ai un peu déconnecté de ça parce que je me suis plongée dans le monde des études plutôt linguistiques. Et après mes études, je me suis dit, en fait, j'ai envie de voyager pour pratiquer les langues, pour aller à la rencontre des différentes cultures. Et dans mon envie de passer du temps en Chine, je me suis dit, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me parle là-bas. Et pourquoi pas le kung-fu, parce que j'ai goûté à des arts martiaux plus japonais, mais pas encore chinois, et donc allons-y. Et j'avais peur avant d'y aller. Je me suis dit, je m'engage pour un an dans cette école. Je suis pas en forme physiquement, faut que je me remette au sport parce que j'avais pas beaucoup bougé, donc je me suis un peu entraînée à la course à pied et tout. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, alors j'étais déjà allée en Chine, donc j'avais un peu moins le waouh de la première fois qu'on va là-bas. Mais pour moi, ça me tenait quand même toujours à cœur. Le fait de parler la langue, je pense que ça me crée un peu un attachement aussi à découvrir ce pays-là. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas et que j'ai commencé l'entraînement, je me suis dit, mais c'est génial, ça va me faire tellement du bien. C'est vraiment ça que je cherchais, en fait, de reconnecter au corps, de avec la pratique, en fait, sentir que tous les questionnements, tout mon cerveau qui bouillonnait un peu de paroles, entre guillemets, s'apaisait beaucoup. Et en fait, ça m'a tellement plu que du coup, j'y suis restée plusieurs années au lieu d'un an qui était prévu au départ, quoi.
Il y a le mandarin, c'est la langue officielle du pays de la Chine, mais il y en a une multitude. Je crois qu'il y a 54 langues, il me semble, en Chine. Est-ce que là où se trouve cette école, c'est une langue particulière ou vous aviez une certaine aisance ?
J'avais plutôt une certaine aisance. Il y a un dialecte, il y a souvent des dialectes locaux, mais là où j'étais, c'était assez facile de parler en mandarin et d'être compris. Et après, on prend un peu le pli des accents et des idiomes locaux aussi. Mais
qu'est-ce qui fait la différence de ces dialectes ? C'est la prononciation, l'orthographe ?
C'est la prononciation, ça va être des mots. Il y a des mots qui sont complètement différents ou utilisés de manière différente.
Le kung-fu, c'est aussi une philosophie, je crois. Et pour cela, il y a des maîtres à penser. Vous en êtes certainement nourri aussi dans cette éducation à cet art ?
Un peu, oui. Alors, moi, dans l'école dans laquelle j'étais, le style principal, c'était le kung-fu Shaolin. Et ça, c'est tiré du bouddhisme. Enfin, la philosophie qui sous-tend le kung-fu Shaolin, c'est le bouddhisme zen. Donc ça c'est assez prégnant dans l'enseignement. Et après, le tai chi, par contre, et le mei hua chuan, là, ce sont deux arts martiaux qui sont plus nourris de la philosophie taoïste. Donc, c'était intéressant d'avoir un peu le mélange de ces deux philosophies qui sont finalement très prégnantes et le fait d'être immergé. En Chine, il y a aussi... en fait, il y a trois grands courants philosophiques et quand on pratique les arts martiaux et qu'on est dans le pays, on touche un peu forcément à ces trois courants philosophiques. Et donc, le troisième, c'est le confucianisme.
Vous avez proposé dans votre programme trois styles complémentaires. Hein. Je vais les citer, Shaolin, le Merao, Ran.
Merua Chen.
Et le Taiji. Et donc, chacun symbolise le premier, le feu, le deuxième, le bois, et le troisième, l'eau. Qu'est-ce que ça signifie dans cette pratique? Est-ce que concrètement, il y a des évidences ou des démonstrations qui seront faites là-dessus?
Pour moi, le Shaolin, c'est plus feu parce que c'est très intense physiquement. Actuellement, il y a aussi beaucoup d'acrobatie. Donc, en termes de cardio, ça travaille bien. Et c'est aussi un art martial qui a été connu pour notamment tout ce qui est renforcement intérieur. Souvent dans les représentations, il y a les moments où on va casser des bâtons sur les membres, tout ça. Ça vient beaucoup du Kung Fu Shaolin.
Je m'interroge justement sur ces démonstrations. Qu'apporte-t-elle dans cette notion d'art martial? C'est quoi? C'est la résistance du corps?
Ça va être la résistance du corps, mais aussi beaucoup le travail de l'esprit sur le corps et jusqu'où on peut aller. Et le travail de respiration. Qui va pouvoir permettre de faire des choses qu'on pensait pas forcément possible de faire. Et ça se construit progressivement, c'est pas d'un seul tenant, mais ouais.
La deuxième proposition étant donc le Merua Chan.
Le Merua, ça veut dire... Merua, c'est fleur de prunier, et Chuan, c'est point, boxe. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le Tai Chi Chuan, on a le point boxe, Shaolin Chuan, on a aussi ça. Et c'est donc le Kung Fu de la fleur de prunier. C'est un art martial qui est très très ancien et dont les cinq postures fondatrices sont reliées aux cinq éléments. Et du coup, c'est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise qui est aussi reliée aux cinq éléments, avec cinq saisons, le système des cinq organes, tout ça. Et pour le coup, moi je l'associe plus au bois parce qu'en fait, dans les postures, déjà on est en grande ouverture de hanches. Sur les cinq postures principales, et on vient chercher vraiment l'ancrage au sol et au ciel. Et donc il y a un effet d'étirement qui part de l'intérieur et qui vient un peu essorer et allonger tout le corps.
Tout ça, cela permet d'appréhender son corps d'ailleurs, de lui attribuer aussi à chaque partie un rôle essentiel. Vous parlez des jambes pour l'ancrage et le bras pour s'appuyer au ciel. Comment s'exerce justement cette pression ou cette tension?
Déjà on se place dans les postures et après en fait on va chercher avec l'intention à aller un peu plus loin, à sentir. C'est aussi beaucoup du ressenti et donc ça ramène en fait à la présence du corps et du coup ça va petit à petit en fait on développe une présence fine pour pouvoir ajuster les mouvements et aller plus loin dans les ressentis aussi.
Cette deuxième partie donc le Meran Chien,
oui,
et avec cette proposition sur le bois, vous parliez de prunier, est-ce que c'est lié à cet arbre?
Alors, à la base, cet art-là s'appelait différemment. En fait, il l'avait nommé, je crois que c'est Sun Tzu Chuan. Je ne suis pas entièrement sûre par rapport au vocabulaire, mais ça signifiait en fait le Kung Fu qui est transmis de père en fils. Et au fur et à mesure, ça s'est ouvert. Et donc, ils se sont dit, là, on va changer son nom parce que ce sera un peu plus adéquat. Et ils ont décidé de le nommer Kung Fu de la fleur de prunier parce que, pour eux, le Meihuachuan, c'est aussi un symbole de résilience, comme c'est un art martial qui est très ancien, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un lien à la fois avec la fleur de prunier qui a 5 pétales pour les 5 postures fondatrices, et il y a cette idée que le prunier, c'est un des premiers arbres à refleurir après le printemps. Donc justement, le symbole de résilience...
La troisième partie, donc une des plus connues aussi, le Taiji, qui est synonyme de l'eau. Pour vous, je vois cette évolution. Hein, le premier étant très cardio, hein, comme vous le disiez. Le deuxième, c'est plutôt une posture de stabilité, d'ancrage. Et le troisième, plutôt l'écoulement.
Oui, le tai chi pour moi et pour beaucoup en fait, on le symbolise vraiment par l'eau. Et il y a aussi différents styles de tai chi, dont certains vont être comme le style yang, plus un peu des eaux calmes, ou le style chen qui lui va être un peu plus de l'eau, style une rivière de montagne où des fois c'est calme, des fois ça fait des accélérations. Et le tai chi, sa particularité, c'est quand même aussi d'être classifié en tant qu'art martial interne. Donc, le Shaolin, c'est plus externe. Le Meihuachuan, c'est un peu entre interne et externe. Pour moi, c'est vraiment à la croisée entre les deux mondes. Et le tai chi, vraiment plus interne, avec cette idée de... Pour moi, ça fait vraiment méditation en mouvement. En termes de bénéfices. Et puis évidemment, ben, ça vient chercher l'équilibre, la lenteur, le souffle, et vraiment une recherche plus interne.
Et puis il y a aussi cette association évidente de l'esprit et du corps, chacun se complétant.
Oui.
Il y a une réelle, une réelle notion du mouvement que l'on opère dans toute gestuelle.
Oui, oui, il y a vraiment l'idée que l'esprit accompagne le mouvement et en même temps, le corps, lui, il se charge de l'information aussi et petit à petit, c'est lui qui va enregistrer les choses jusqu'à ce que l'esprit il puisse lâcher et se concentrer vraiment sur la présence.
Alors, il y a ces trois disciplines complémentaires, comme vous le dites, avec cette force intérieure et de bien-être. Alors, qu'est-ce que amène le Kung-Fu pour une personne qui n'a pas d'expérience dans le domaine ?
Eh bien, je dirais que déjà, il y a des choses très générales comme la coordination. Ça va amener aussi, en termes juste purement physiques, mais voilà, coordination, renforcement, endurance aussi, de la souplesse. Ça, c'est plus pour le côté physique. Et puis, la synchronisation avec la respiration, donc ça aide aussi, parce qu'il faut respirer en pratiquant, sinon on ne tient pas. Et après, en fait... la force intérieure, bien-être, je trouve que ça va avec le fait de pratiquer et de ramener la présence à ce qu'on fait, juste se ramener dans le corps. Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais là-bas. C'est une des phrases que le directeur, et qui était aussi notre enseignant principal, nous avait dit. Le plus haut niveau de Kung Fu, c'est la santé. Et j'aime beaucoup cette notion-là. Dans le fait que, oui, effectivement, ça ramène au corps et ça ramène à bouger. Et en fait, le mouvement, ça fait juste de façon générale, ça fait du bien, quoi.
Ça nous amène à une unité.
Oui.
Vous avez déjà proposé une première partie de stage qui avait lieu ce week-end, samedi, dimanche. Vous aviez un public. Quel en a été le bilan pour vous ?
Je suis super contente de ce stage. Ça s'est très bien passé. J'ai eu des beaux retours. Ça m'a vraiment touchée de les voir se donner autant. Surtout que je leur avais prévu un programme assez, pas, avec du temps pour intégrer, mais ils étaient super, super motivés. Et c'est toujours très touchant pour moi de voir à quel point les gens peuvent se donner dans la pratique, en fait, et revenir le lendemain en se disant « Waouh, j'ai des courbatures, mais j'y vais !» Et voilà, pour moi, ça, c'est très touchant. Et d'arriver à les amener quelque part aussi, c'est... Je crois que la confiance que les pratiquants placent dans la transmission, en fait, me touche beaucoup. Et ça me nourrit beaucoup aussi dans ma façon de transmettre. Ça me permet, au fur et à mesure, d'acquérir de l'expérience, d'évoluer et de m'adapter aussi aux demandes. Voilà.
Vous parlez de santé, hein, c'est peut-être un élément primordial pour pouvoir pratiquer cet art. Ou alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont peut-être des quelques difficultés, mais qui peuvent très bien s'adapter à ce que vous proposez ?
C'est important d'arriver avec quand même une structure qui... Enfin, d'arriver plutôt en bonne santé. Par exemple, les gros problèmes de dos, je ne recommande pas du tout de venir faire... le stage, parce que comme je propose quand même du Shaolin qui est un peu intense, du Meihua qui fait des grandes ouvertures de hanches, des fois ça peut être un peu trop fort, en fait. Mais après, il y a des choses avec lesquelles on peut s'accommoder. Des fois, il y a des personnes qui arrivent qui me disent « Ah, j'ai un peu mal à l'épaule aujourd'hui. » Je dis « Ok, tu fais en adaptant les postures, tu fais ce que tu peux, et voilà, et ça marche aussi. » L'important, c'est vraiment dans la pratique de pouvoir s'écouter et de pas forcer, parce que quand on force, c'est souvent, après, on en paye un peu les conséquences et c'est pas bon. Mais en fait, on peut faire beaucoup de choses, plus des fois que ce à quoi on s'attend.
Il y a la tenue aussi, je vois l'affiche, et il y a une exigence vestimentaire pour cette pratique, ou alors, je comprends bien que pour des stagiaires, ce n'est pas forcément évident, mais je vois les clubs de aïkido ou de judo, on a tous des tenues particulières. Il y en a une aussi pour le kung-fu, j'imagine.
Oui, pour le kung-fu, il y en a une aussi.
Et ces tenues, justement, elles émanent de quelle pensée ? Est-ce qu'il y a ce côté pratique, ou alors il y a aussi un aspect plutôt d'apparat ?
Eh bien, ça dépend des styles de kung-fu. La plupart du temps, c'est quand même un côté pratique avec des vêtements qui sont souples et confortables. Et effectivement, chaque style de kung-fu a un peu son style de vestimentaire, finalement. Mais il y a un grand côté pratique, souple, ample. Et pour le kung-fu Shaolin, c'est aussi lié avec l'habit des moines. Voilà, il y a un lien avec les deux.
Je parlais de philosophie aussi dans cet art. Est-ce qu'il y a des maîtres à penser qui régissent aussi un peu cet état de bien-être, par exemple, nécessaire ?
Eh bien, pour le Kung Fu Shaolin, il y a vraiment la partie... Il n'y a pas que des moines guerriers, il y a aussi des moines qui sont vraiment sur la prière et le bouddhisme zen. Donc, il y a des maîtres des deux côtés. Et le temple Shaolin de Songshan, c'est vraiment la référence par rapport à ça. En lien avec le Kung Fu Shaolin, du coup. Et après, pour le Meihua Quan, c'est pareil, il y a aussi des maîtres, il y a deux parties. Il y a une partie plus culturelle. Oui, c'est ça, plus culturelle, et une partie plus pratique physique. Et donc là, il y a aussi des maîtres dans les deux, ou des maîtres qui ont les deux formations, du coup, et voilà.
Il y a plusieurs étapes dans cette proposition de stage. Il y en a une avec un focus sur la pratique Shaolin. Ensuite, des petits exercices de Tai Chi et de Meihua. Je voulais savoir, le Tai Chi, c'est en quelque sorte un mouvement tout en lenteur, mais néanmoins très puissante au niveau de sa pratique.
Oui, alors le Tai Chi... On dit souvent qu'en fait, les mouvements sont un peu déguisés, mais qu'en fait, le mouvement de Tai Chi, il a été construit quand même pour pouvoir se défendre et effectivement avoir une application martiale assez puissante. Donc quand on fait les démonstrations d'application martiale, on se rend bien compte que, ah oui, d'accord, c'est pas juste un mouvement lent, en fait, ça a quand même une recherche derrière d'application pratique qui, oui, qui effectivement est assez puissante. Et...
Ce qui amène aussi à une très grande notion de l'anatomie humaine pour justement solliciter les moindres muscles, les moindres nerfs.
Oui.
Et oui. Ça, c'est une école aussi, c'est une théorie qui est apprise au-delà du mouvement, de la pratique.
Ça s'apprend. Alors, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en Chine, c'est plus on reste longtemps, plus on va avoir accès à certaines informations. On n'a pas toutes les informations qui sont délivrées en même temps. Et des fois, ils nous laissent vraiment du temps pour pratiquer et intégrer avant de nous donner certaines infos plus internes, justement, je dirais. C'est qu'il y a certains mouvements dans les styles qui peuvent être très lents, du coup, mais néanmoins, du coup, qui permettent de ressentir, de prendre le temps de ressentir le corps dans son ensemble et qui ont aussi une application martiale. Et il y a d'autres mouvements, toujours de tai chi, mais du style notamment Chen, qui sont plus explosifs aussi. D'un seul coup, ça fait plouf. Enfin, plouf, c'est pas le mot. Ça fait plus brouf. Et hop, on revient à quelque chose de plus tranquille. Donc, il y a vraiment des deux.
En dernière partie, il y a une proposition sur le Art Qigong. Alors ça, en quoi consiste-t-elle? C'est pour des personnes qui sont plus affirmées, pratiquées?
Alors, le Heart Qigong, c'est une pratique qui va permettre en fait de renforcer le corps en allant le stimuler extérieurement. C'est une pratique qui se fait progressivement. On y va vraiment, en fait chacun pose son rythme. Moi, au cours de ma formation, en fait, j'ai rencontré des personnes pour qui, dès le début, ils étaient plutôt... le renforcement, ça allait plutôt bien. Donc, du coup, ils rentraient dans le Heart Qigong très vite. Et d'autres personnes qui, au contraire, c'était... Il y allait tout... Enfin, très doux, parce que le système était très... très activé, très sensible. Et donc, on prend le temps. Et au fur et à mesure, en fait, la résistance se construit. Et le Heart Qigong, c'est aussi ça qui va permettre d'aller vers les pratiques justement de respiration profonde et de tout ce qu'on voit par rapport au fait d'être capable de briser un bâton sur son dos, son bras, tout ça, voilà.
Alors, ces propositions sont diverses. Hein. Ça peut être la demi-journée, la journée ou le week-end. Pour le prochain week-end, donc, qui aura lieu, si je ne me trompe pas, les 21 et 22 mars, hein. Ça sera à Recoubeau-Jansac. Quel est le lieu, en principe?
C'est souvent dans un dojo près de la Maison Oiseau.
Très bien. Et il y a des inscriptions possibles à partir de 14 ans. Donc, je peux indiquer aussi le numéro de téléphone hein, pour les personnes désireuses de s'y inscrire avec les questions qu'elles peuvent poser aussi. Vous aurez les réponses. C'est au 07 85 94 31 98. Et c'est Manon que vous aurez au bout du fil. Vous-même, vous proposez ce stage. Est-ce que dans l'avenir, vous aurez une certaine constance ou une fréquence plutôt régulière de cette proposition? Parce que il y a du aïkido, il y a du judo dans le diwa, mais le kung-fu, c'est pas encore trop couru.
Eh bien, pour l'instant, comme je n'habite pas, j'ai habité un temps en Drôme, donc j'avais commencé à donner des cours et j'ai déménagé. Et donc j'essaye de pouvoir, enfin, de maintenir quand même une pratique de kung-fu parce qu'il y a de la motivation et de la demande pour. Et pour l'instant, j'essaye de faire un stage une fois par mois.
Voilà. Manon Quedeau, en tout cas, merci d'être venue sur RDUA pour nous parler donc de ces stages kung-fu donc de l'ancrage, du renforcement, de la fluidité. Ça aura lieu le premier week-end du 21 et 22 mars 2026 à Recoubeau-Jansac. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Shaolin, Shaolin. 有多少英雄豪杰都来把你敬仰，少林少林，有多少神奇故事到处把你传扬，精湛的武艺举世无双，少林寺威震四方，悠久的历史源远流长，少林寺威名辉煌，千年的故事，神秘的地方，嵩山有故，人人都向往，无数的故乡，迷人的地方，天下知名，万古流芳。英雄豪杰都来把你敬仰，少林少林，有多少神奇故事到处把你传扬，精湛的武艺举世无双，少林寺威震四方，悠久的历史源远流长，少林寺美名辉煌，千年的故事，神秘的地方，嵩山有故，人人都向往，无数的